la reconnaissance canonique de la Fraternité Saint-Pierre, 18 octobre 1988. La Fraternité Saint-Pierre a en quelque sorte 30 ans aujourd'hui, même si elle avait été fondée en juillet, mais elle a obtenu la pleine reconnaissance canonique au mois d'octobre. Et généralement, nous faisons d'ailleurs nos incorporations, nos premières incorporations comme séminaristes, au plus près du 18 octobre, et on reçoit la soutane, généralement, en début de deuxième année, un samedi proche du 18 octobre, pour maintenir cette date. Donc. Alors, la dernière fois, donc, nous avions beaucoup parlé du baptême et de la personne de Jean-Baptiste, puisqu'on avait dit que ce prologue qui parlait de l'action de Jean-Baptiste et du baptême de Jésus venait confirmer qui est à la fois et le titre et le plan de l'évangile, évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et on avait dit comment ce prologue, avec cette action de Jean-Baptiste, montrait que Jésus est le Christ, puisque la venue du Messie devait être précédée par le nouvel Élie, qui viendrait du désert, qui prêcherait le repentir, qui rendrait droit les sentiers, et comme le disait Isaïe et Malachie, et effectivement Jean-Baptiste eh bien, accomplit cette figure du précurseur venu avec l'esprit d'Élie, qui a les mêmes vêtements qu'Élie, qui vient du désert et qui prêche se repentir, qui rend droit les sentiers. Donc ça c'était Jésus-Christ et Jésus Fils de Dieu, c'est la voix du Père qui se fait entendre, tu es mon Fils bien-aimé. Donc là, je dis, voilà comment le prologue concrétisait finalement le titre de cet évangile. On avait dit aussi combien cette scène du baptême était fondatrice avec la première manifestation explicite de la Sainte Trinité. Donc là, nous pourrons y penser quand nous serons sur les rives du Jourdain. C'est quand même là que pour la première fois les hommes ont entendu parler de la Sainte Trinité qui nous occupe chaque jour, quand nous faisons nos signes de croix, quand nous prions, quand nous disons notre Père. Donc la voix du Père, la présence du Fils et la colombe de l'Esprit Saint. On avait dit aussi comment cette scène du baptême était fondatrice parce qu'elle annonçait la passion, que Jésus prend la place déjà des pécheurs dans les eaux du Jourdain, comme il prendra la place des pécheurs dans les eaux tumultueuses de la Passion, et que Jésus lui-même, on trouve ça en Saint-Luc chapitre 12, verset 49-50, que Jésus lui-même, quand il parle de sa Passion, dit « Je dois être baptisé d'un baptême, et comme j'ai hâte que ce baptême ait lieu. » Donc le Christ vraiment parle de la Passion comme d'un baptême, ce qui renforce cette idée que son baptême dans le Jourdain est déjà une annonce de sa passion, puisque enfin, ce qui fait le lien entre les deux scènes, c'est qu'il prend la place des pécheurs. Et on avait dit enfin, notamment pour les pèlerins de Terre Sainte, et bien voilà, que le lieu du baptême, avant que ce soit le lieu jordanien ou le lieu israélien aujourd'hui, c'est le Jourdain en lui-même, et que voilà, c'est d'abord ce fleuve du Jourdain qu'il nous faut contempler. Ce Jourdain qui traverse l'Ancien Testament. On avait parlé de Naaman le Syrien, qui était ce général qui était guéri dans les eaux du Jourdain. Avant cela, on avait parlé du peuple d'Israël qui, à son retour de l'esclavage d'Égypte, traverse le Jourdain à pied sec. On aurait pu aussi remonter encore plus et parler d'Abraham et Lot, quand ils se partagent en quelque sorte la Terre Sainte. Bien modeste, ils sont 12 tout mouillés à eux deux, enfin bon, en comptant les serviteurs, les femmes et les troupeaux, ils sont là sans doute quelques grosses dizaines, c'est bien un partage tout théorique, mais Lot, eh bien, lui voit cette plaine verdoyante arrosée par le Jourdain, puis il dit ah, moi j'irai plutôt par là, puis Amram, moi je te laisse la région un peu plus désertique, mais voilà, c'est pas forcément l'idée du siècle, parce que avec la verdure et la facilité, vient aussi un certain nombre de dépravations à Sodome et Gomorrhe que vous connaissez très bien. petit texte de saint Maxime de Turin sur le baptême, avant de passer à la suite. Le Christ est baptisé non pas pour être sanctifié par l'eau, mais pour sanctifier lui-même l'eau, et pour purifier par sa pureté ses flots qu'il touche. Donc c'est très beau cette idée que le chrétien, lui, est purifié par les eaux du baptême, par ces eaux qui sont le signe de la grâce qui agit dans son cœur, mais le Christ, lui, ne descend pas dans le Jourdain pour être purifié, mais pour purifier, pour consacrer les eaux, justement par sa présence divine dans les eaux du Jourdain, il donne en quelque sorte à ces eaux, à cet élément aquatique, une consécration nouvelle, puisque l'eau désormais va servir au sacrement de baptême. Et donc c'est vrai symboliquement de toute eau, mais c'est vrai tout spécialement de cette eau du Jourdain que nous verrons bientôt. Si vous aviez des questions sur ce prologue baptismal. Alors on continue la lecture de l'Évangile. Je lis. Aussitôt l'Esprit pousse Jésus au désert. Verset 12. Vous avez des petits livrets qui viennent directement de la Sainte Abbaye de Savigny. Embrassez des autres. Aussitôt l'Esprit pousse Jésus au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Somme au verset 12 et 13. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Jésus avança un peu et vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans leur bac, dans la barque, et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Ils entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, Jésus se rend à la synagogue, et là, il enseigne. On était frappé par son enseignement car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ?» Monsieur Miro, il faut leur ouvrir la porte, mais ils ne vont jamais oser rentrer en fait. C'est des Indiens noyaki. Allez-y, prenez les chaises disponibles. Non, c'est bon, on vient de commencer, là on est au chapitre 1, verset 23. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. Jésus l'interpella vivement, tais-toi, sors de cet homme. L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis poussa un grand cri sorti de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Aussitôt sortis de la synagogue, ils allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt on parla à Jésus de la malade, Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever, la fièvre la quitta et elle les servait. Donc je m'arrête là pour l'instant, je vais prendre un petit temps de silence pour éventuellement relire ce que je viens de dire à haute voix. en imprégner, et puis peut-être justement ouvrir une porte à l'Esprit Saint pour qu'il nous inspire et qu'il nous éclaire sur ce texte. Je me suis arrêté là parce que il me semble que tout ce que je viens de lire s'organise en deux tableaux. Ça veut dire un diptyque, un double tableau avec un certain nombre de parallèles qui sont dessinés par Saint Marc et qui nous permettent de continuer à entrer dans cette découverte de Jésus-Christ de Dieu. Est-ce que vous avez idée de ces deux tableaux? Quels sont ces deux tableaux que Saint Marc dessine et entre lesquels il met un certain nombre de parallèles, de correspondances qui nous permettent justement d'identifier ce diptyque, ce double tableau? Il y a déjà des indices géographiques évidemment assez forts. Oui. Et puis l'esprit impur vous permet de faire une correspondance surtout avec quelle autre scène que nous venons de lire avec Satan. Effectivement, le diptyque s'organise entre les deux lieux dans lesquels Jésus évolue. D'un côté, le désert sec, aride, près de Jéricho, sans doute, puisque Jésus a été baptisé près de Jéricho et il y a près de Jéricho, à quelques kilomètres, une montagne qu'on appelle la montagne de la Tentation, ou la montagne de la Quarantaine, dans laquelle il y a un monastère orthodoxe, parce que traditionnellement, on dit que c'est là que le Christ a été tenté par le démon. Donc, effectivement, il y a la région de Jéricho, assez désertique, où le Christ va rester 40 jours, et puis, il y a Capharnaüm, donc, au nord du lac de Tibériade, au contraire, une région vallonnée, verdoyante, peuplée, évidemment, c'est une ville avec des commerces, avec des pêcheurs. Donc là, il y a ce diptyque, Jésus au désert, Jésus à Capharnaüm. Au niveau géographique, tout semble opposer ces deux tableaux. Et en fait, on remarque donc qu'il y a des correspondances. Jésus au désert est en but à Satan. Jésus à Capharnaüm est en but à un esprit impur, donc à un démon, à un serviteur en quelque sorte de Satan. Qu'est-ce qu'on voit aussi au désert? Oui. Alors, qui le sert au désert? Non. Qui le sert à Capharnaüm? La belle-mère, exactement. Donc, effectivement, mais c'est, vous voyez, je pense que ce n'est pas anodin, vous voyez, que Saint Marc nous dise que la belle-mère de Simon se met au service de Jésus. Bon, déjà, bon, c'est une constatation sans doute historique, elle s'est mise au service de Jésus. Ça peut être aussi l'idée de dire, ben voilà, il y a une forme de zèle dans cette belle-mère, parce que, alors qu'elle était au lit avec de la fièvre, etc., qu'elle aurait pu demander peut-être un petit temps de convalescence avant de faire la popote et le service, eh bien, en écoutant que son courage, son action de grâce, envers celui qui vient de la sauver, elle le sert. Tout ça est très juste. Mais je dirais, il y a beaucoup de personnes, je pense, dans l'évangile que l'on va croiser, qui se sont mis au service du Christ, et saint Marc ne mentionne pas toujours et un tel le servait, et un tel le servait. Donc je pense que si saint Marc insiste sur ce service de la belle-mère, c'est aussi qu'il fait ce parallèle, vous voyez, entre la scène du désert, Jésus, sauveur, qui vient lutter et triompher des forces du mal. Donc ça c'est Jésus contre le démon, Jésus contre l'esprit impur. Jésus, Christ, qui a autorité, donc c'est Jésus parmi les bêtes sauvages. Les bêtes sauvages ne font pas de mal à Jésus, parce que Jésus a cette autorité de créateur et de sauveur qui vient mettre les bêtes sauvages au pas, en quelque sorte. Le parallèle, c'est Jésus dans la synagogue. Que disent les gens dans la synagogue? Il a autorité. Jésus a autorité parce que son enseignement fait autorité. Donc là, il y a ce parallèle. Jésus vainqueur du mal contre le démon. Jésus vainqueur du mal contre l'esprit impur. Jésus qui a autorité de par sa puissance sur les bêtes sauvages. Jésus qui a autorité de par la puissance de son enseignement. Et puis, voilà, une fois que Jésus est reconnu comme sauveur, comme fils, eh bien, le mouvement naturel, c'est de se mettre à son service. Donc, c'est ce que font les anges dans le désert, c'est ce que fait la belle-mère de Simon dans sa maison. Vous voyez, il y a un diptyque que nous peint en quelque sorte saint Marc et qui vient renforcer ce qui nous a déjà dit, à savoir que Jésus est Christ, Fils de Dieu. Il nous l'a dit dans le titre, il nous l'a montré dans le baptême avec saint Jean-Baptiste qui venait témoigner pour ça, la voix du Père qui venait témoigner pour ça, et maintenant il nous le montre dans la vie concrète de Jésus, parce que ce ne sont pas que des titres comme ça honorifiques qui sont suspendus en l'air, ça se réalise dans la vie de Jésus, déjà à travers ce premier tableau, à la fois le désert et à la fois Capharnaüm. Vous avez des questions sur ces différentes scènes, des questions qu'on peut se poser pour nous. Moi, chef.
C'est en fait pas sur les feuilles, mais c'est sur la tentation en fait du Christ.
Oui, quand je dis une question, c'est surtout ce qu'on vient de lire, c'est pas forcément sur les discours que je viens de montrer.
Mais par tentation en fait du Christ, est-ce qu'on entend que le démon essaie de tenter le Christ? Est-ce qu'on entend que le Christ a été réellement tenté? Et est-ce que c'est en fait pour appuyer, souligner la nature humaine du Christ, qu'on évoque cette tentation? Ou est-ce qu'il y a une autre raison? Est-ce qu'il y a vraiment le Christ, la nature, est-ce qu'il y a vraiment le Christ peut être tenté? Est-ce que le Christ peut avoir, je dirais bien, détourné du Père? Et pourquoi en fait on voit la tentation du Christ que dans le désert et jamais en fait quand il est en œuvre? Il est toujours en œuvre, mais pourquoi en fait on ne le voit jamais tenter en fait quand il proclame l'évangile, on le voit tenter que quand il est en fait justement dans
l'intimité,
en fait, avec le
Père. Je ne sais pas si je réponds à toutes les questions, mais pour cette partie, en tout cas, de Jésus au désert, ce qui est intéressant à noter, donc, c'est l'esprit avec un grand E, déjà, qui pousse Jésus au désert. Donc, c'est une suggestion de l'Esprit Saint d'aller au désert. Donc, je dirais déjà, c'est un enseignement pour nous. Avant que le Christ ne commence sa vie publique, avant qu'il ne se mette à agir, à enseigner, à faire des miracles, il prend ce temps de solitude, d'intimité avec le Père, puisque le désert n'est pas un lieu forcément négatif pour le peuple d'Israël. Le désert est aussi un lieu d'union à Dieu, parce que justement on est moins sollicité par les tentations du monde. Et il y a une très belle phrase dans le livre d'Osée, hein, quand Dieu parle de son peuple comme d'une fiancée, et il dit, ben, je l'attirerai au désert et je parlerai à son cœur. Donc c'est tout le sens des retraites spirituelles, en fait, cette idée que alors, on se retire du monde pour, dans une vie plus austère, plus frugale, plus simple, plus silencieuse, se mettre en présence de Dieu. Alors, c'est sûr que le désert, en revanche, sans la présence de Dieu, peut devenir, là, en revanche, un lieu de découragement total, de désespoir, d'aridité. Là, on est perdu, on est en danger, ça. Mais voilà, il y a cette ambivalence. Le désert avec Dieu est un lieu de grande proximité. Le désert sans Dieu est un lieu de désespoir et un lieu de, justement, où le démon peut agir, en quelque sorte. Alors, donc, il y a ce où Jésus au désert, donc dans ce temps d'intimité avec le Père, mais aussi ce qui va devenir un temps de tentation. Alors, effectivement, dans la foi chrétienne, Jésus étant le Fils de Dieu, étant vrai Dieu, né du vrai Dieu, jamais la tentation ne peut être intérieure chez lui. La tentation est toujours une sollicitation extérieure. C'est-à-dire que jamais le cœur du Christ ne peut de lui-même secréter une tentation ou même évidemment consentir à une tentation. Donc c'est toujours une tentation qui lui vient de l'extérieur, jamais une faiblesse de son imagination ou de sa volonté qui serait une brèche intérieure à la tentation. Alors, tentation extérieure, c'est faut bien comprendre, c'est pas forcément une tentation visuelle, parce que ça peut être aussi une tentation de l'imagination, mais extérieure au sens où il n'y a pas dans le Christ un défaut, une faille qui lui est propre, qui lui est personnelle. C'est toujours une tentation qui vient frapper de l'extérieur de sa personne. Parce que là, le Christ étant Dieu, évidemment, on ne peut pas imaginer que le souverain bien ouvre une faille au mal. Mais quand je parle de l'imagination, c'est par exemple, vous voyez, dans la troisième tentation qui est décrite par saint Matthieu, quand on dit « le démon lui présenta tous les royaumes de la terre », ça ne veut pas forcément dire que le Christ les a vus extérieurement avec ses yeux. Ça peut vouloir dire que le démon à présenter une image intérieure, mais quand je dis intérieur-extérieur, c'est pas par rapport à l'imagination, c'est donc par rapport à la volonté. Il n'y a pas dans la volonté du Christ de faille qui fait qu'il serait en quelque sorte complice de la tentation. Donc c'est toujours une tentation extérieure qui vient du démon, contrairement à nous. On n'a pas forcément besoin qu'un démon vienne nous voir pour être tenté. La faiblesse de notre volonté, la force de notre sensualité qui échappe à la maîtrise de notre intelligence et de notre volonté, les péchés passés qui remontent et qui ont créé un certain nombre d'habitudes mauvaises sont suffisants, malheureusement, pour créer une tentation en nous. Il ne faut pas croire que chaque tentation, il y a un démon derrière. Parfois, la tentation est née de la simple résurgence de nos péchés passés ou de nos habitudes vicieuses. Ce n'est pas le cas du Christ. C'est une tentation par un agent extérieur, qui est le démon. Après, est-ce que le Christ n'a été tenté que là? C'est un peu difficile à dire. C'est-à-dire que, effectivement, les évangiles concentrent les tentations à ce moment-là de la vie du Christ. Et, on peut dire quand même aussi à Gethsémani, qui est quand même le grand moment de la tentation. Et c'est vrai que, justement, on dit que le démon se retire à un moment. Le démon n'était pas content. C'est pas une prédiction prophétique, c'est juste que c'est du bon temps. Bon, on va le laisser là. Quand j'en aurai besoin, je. Je sais pas, son parti est très loin. Donc il y a un passage, mais je ne commettrai pas l'erreur de la fois précédente, c'est-à-dire d'essayer de chercher des passages qui n'existent pas au bon endroit, mais il y a un passage effectivement où on dit que le démon se retire en attendant son heure. Et effectivement, l'heure du démon, c'est par excellence Gethsémanie. Gethsémanie, c'est l'heure de la grande tentation, plus encore d'une certaine manière que le désert. Puisque c'est le moment où le Christ.
Et c'est encore un moment de
dignité. On pourrait faire demi-tour. Après, c'est vrai que le Christ n'est pas. Le Christ n'a pas à avoir des tentations de sensualité en regardant les femmes. Donc c'est sûr que c'est souvent des tentations très spirituelles. Donc ces moments d'intimité avec Dieu, avec le Père, sont assez propices à ces tentations. On va le laisser là. Il y avait d'autres questions ou pas? Si, alors quand même, pourquoi le Christ accepte d'être tenté aussi dans un but, de communion avec nous? C'est-à-dire qu'il y a aussi ce côté, quand vous êtes tenté, eh bien, souvenez-vous de la tentation du Christ, souvenez-vous que le Christ est vainqueur du démon, que le Christ arrive à dire non au démon, et donc si vous faites appel au Christ dans vos tentations, il vous donnera la force de dire non, comme il a lui-même dit non. Donc, c'est aussi un aspect communion des saints. Si on veut poursuivre quand même l'évangile, donc après le désert, en fait, Saint Marc fait un petit raccourci parce qu'après Jéricho, bon, la violence, plus personne ne voit grand chose, mais après Jéricho, notre bon Saint Marc fait un petit raccourci. Parce que après Jéricho, le Christ remonte à, sans doute à Nazareth et à Cana, puisque Saint Jean nous dit que c'est à Cana que le Christ donna son premier signe en présence de ses proches. Il leur montra déjà sa gloire, donc le miracle des noces de Cana, donc l'eau changée en vin. Donc je dirais, voilà, il y a un petit raccourci où on passe directement dans cette optique un peu. Voilà, les deux tableaux de Jéricho à Capharnaüm. Mais dans une perspective plus historique, le Christ passe de ce temps de désert, ensuite à Nazareth, ensuite à Cana, où il va justement aux noces, avec ceux qui commencent à être déjà ses disciples. Parce que si on lit l'évangile de Saint Marc, et ça a été un argument de Julien d'Aposta, par exemple, qui était un évêque, un empereur de Rome, qui avait renié la foi chrétienne pour revenir au paganisme.
Ça revient
des. Et Julien d'Aposta dit ces évangiles sont incroyables, regardez, Jésus passe au bord du lac, il voit des pêcheurs dans un bateau, il les appelle, les pêcheurs le suivent, ils abandonnent tout, tout ça c'est de la fiction, tout ça n'est absolument pas réel. Qui imaginerait comme ça suivre un inconnu en abandonnant tout, famille, bien, profession, etc. Donc, ce qu'il faut répondre à cette objection qu'on peut se poser ou qui peut nous être posée, c'est que Saint Pierre, Saint André, Saint Jacques, Saint Jean ne sont pas du tout des inconnus pour le Christ. Justement, dans l'évangile de Saint Jean, on voit que Jésus les rencontre déjà au bord du Jourdain, lors de son baptême, parce qu'ils sont des disciples de Saint Jean-Baptiste. Donc c'est très important, ils sont d'abord disciples de Saint Jean-Baptiste, et c'est Jean-Baptiste qui les envoie vers Jésus en disant, mais voici l'agneau de Dieu, allez-y. Et on voit que comment ils suivent Jésus un peu derrière, et puis Jésus se retourne un moment, qui cherchez-vous, maître, où demeures-tu? Venez et voyez, donc c'est un peu la passation de disciples, ils deviennent à ce moment-là davantage disciples de Jésus que de Saint Jean, mais ils repartent à leurs affaires. Certains accompagnent Jésus quand même à Cana, puisque Saint Jean nous mentionne la présence de disciples, sans être trop explicite. Mais donc voilà, il y a cette rencontre au Jourdain, il y a ce miracle des noces de Cana, il y a Jésus, ça c'est dans Saint Luc, qui enseigne les foules depuis la barque de Pierre, parce qu'il était sur le rivage du lac de Tibériade, mais il y a trop de monde, la foule le presse, donc il demande à Saint Pierre de monter dans sa barque, et il fait, évidemment c'est une annonce de l'Église, il fait de la barque de Pierre le lieu de son enseignement, donc c'est évidemment cette barque de Pierre qui annonce de l'Église qui sera confiée à Saint Pierre. Donc Saint Pierre entend dans sa barque les enseignements de Jésus, donc il va avoir suffisamment confiance pour jeter les filets après une nuit infructueuse et faire la pêche miraculeuse. Donc en fait, Saint Marc ne parle pas de tous ces épisodes, mais il y a quand même tous ces épisodes qui sont présents. Le Jourdain, Cana, l'enseignement au bord du lac, la pêche miraculeuse, donc cette adhésion des disciples n'est pas du tout une adhésion dans le vide de gens à moitié fous qui suivraient un inconnu en même temps transporté dans je ne sais quelle transe. Voilà, ils le suivent en connaissance de cause. Donc ça c'est important quand même, je pense, de le noter. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Donc, juste pour les pèlerins de Terre Sainte, quand même, nous irons à Cana, donc on est voilà, à peu près sûr du lieu. Alors, bon, c'est comme souvent dans les lieux de Terre Sainte, c'est quand même plusieurs lieux qui se battent. Donc, il y a un Cana libanais puis un Cana israélien. Mais bon, le Cana israélien paraît quand même beaucoup plus probable du fait de sa proximité avec Nazareth. J'imagine mal qu'il aille vraiment au Liban, qui reviennent, etc. Donc le Cana de Galilée, puis bon, dans l'Évangile, on parle quand même de Cana en Galilée, donc ça paraît quand même une attribution assez certaine. Donc voilà, le lieu de Cana paraît assez bien identifié, et le lieu de Capharnaüm, alors pour le coup, est tout à fait identifié. Donc il y a des églises qui ont été construites justement sur la maison de Pierre et d'André successivement, ce qui atteste vraiment un culte très ancien pour ce lieu-là, donc qui est identifié à la maison de Jésus. Et puis on a retrouvé aussi la synagogue de Capharnaüm, et c'est dans la synagogue de Capharnaüm que Jésus a proclamé le discours du pain de vie, qu'on trouve au chapitre 6 de Saint Jean. Donc, vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts, et moi je vous donnerai une nourriture telle que ceux qui en mangent ne mourront jamais. Je suis le pain de vie, ma chair est vraiment une nourriture, mon sang vraiment une boisson. Donc ce discours du pain de vie qui est fondateur évidemment de notre foi eucharistique et que nous voyons vivre chaque jour à la messe, a été proclamé dans la synagogue de Capharnaüm. Donc nous irons dans cette synagogue relire le discours du pain de vie. À noter avant d'enchaîner, Capharnaüm n'est pas une petite ville quand même dans l'histoire de Jésus, puisque Saint Matthieu l'appelle sa ville. Jésus retourna dans sa ville de Capharnaüm. C'est-à-dire que Jésus, évidemment, est né à Bethléem, je ne vous l'apprends pas, a grandi à Nazareth, mais Nazareth va le rejeter. Il va rejeter Jésus, on voit que les gens de Nazareth veulent même le lapider, parce que les habitants de Nazareth, finalement, ne comprennent pas que ce fils du charpentier, qui ne s'est jamais vraiment distingué pendant 30 ans, tout d'un coup, soit le Messie. Et donc Jésus étant rejeté de Nazareth, va faire de Capharnaüm et notamment de la maison de Pierre, de Simon-Pierre et d'André, un peu son quartier général. Et donc vous voyez, par exemple, au chapitre 2, premier verset, quelques jours plus tard, Jésus revint à Capharnaüm et on apprit qu'il était à la maison. Et on retrouve ça aussi au chapitre 9. Donc quand saint Marc parle de la maison de Jésus, Jésus est à la maison, c'est pas tellement Nazareth, même si c'est la maison où il a vécu 30 ans, c'est la maison de Notre-Dame et de Saint-Joseph, donc on ira aussi ici. Évidemment, une importance décisive, parce que c'est là qu'a eu lieu l'Annonciation, et c'est là que Jésus a passé une grande partie de sa vie, de sa vie cachée, c'est-à-dire quand il cachait qu'il était le Messie. Mais voilà, même si Nazareth est évidemment fondamental, il ne faut pas négliger Capharnaüm. C'est vraiment sa ville de missionnaire. Pendant les trois années missionnaires de Jésus, sa ville, c'est davantage Capharnaüm que Nazareth. Et donc, la maison, c'est la maison d'André et de Simon à Capharnaüm. Donc, important de le signaler pour déjà vous mettre l'eau à la bouche quand nous irons à Capharnaüm. Donc le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler, parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti ». Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leur synagogue et expulsant les démons. Qui est à l'œuvre, à votre avis, dans ces deux paragraphes que nous venons de lire et qui sont les derniers que nous lirons aujourd'hui, parce qu'après nous basculerions sur une nouvelle partie. Vous allez pouvoir aussi poser des questions sur la chose. Retiendrez votre attention, c'est le but aussi de cette petite lecture divina, aussi de faire remonter ce que le texte vous dit, ou au contraire ce que le texte ne vous dit pas.
Que les gens le cherchent.
Effectivement, déjà que les gens le cherchent, qui est aussi moteur pour nous, c'est que effectivement de. Voilà, donc le Christ commence à être connu et quelle attitude va-t-il avoir à travers le fait d'être comme ça connu et recherché à Capharnaüm? Donc effectivement, alors déjà il y a un petit épisode au désert en quelque sorte. Se retire dans un lieu désert pour prier. Donc, de nouveau, on note que le Christ, avant son action apostolique, met toujours en premier la prière, qui est vraiment une leçon pour nous, avant de grandes décisions, avant même de se lancer dans sa journée le matin, retirons-nous dans le désert pour prier notre Père. Donc, c'est déjà une très belle leçon. Et effectivement, pourquoi il se retire dans le désert ou dans un lieu désert? Parce qu'il va rentrer dans une nouvelle étape de sa mission. Maintenant, ce n'est plus seulement Capharnaüm, c'est toute la Galilée. Donc ces deux paragraphes, ils sont là pour constituer une extension de la mission de Jésus. Jésus, à Capharnaüm, a choisi ses premiers disciples, il a opéré ses premières guérisons, a fait les premiers exorcismes, a donné les premiers enseignements, mais, enfin, je dirais, le feu de son cœur dit que il ne peut pas se contenter de ça. Il n'est pas seulement venu pour les habitants de Capharnaüm, mais il y a toutes ces personnes qui ne le connaissent pas encore, tous ces villages voisins, toute cette Galilée, pour l'instant, on va voir qu'il étendra encore plus le cercle de sa mission, mais là, il y a toutes ces personnes qui, elles aussi, le cherchent sans savoir, et il veut aller vers elles. Donc je dirais, voilà, il y a ce qui est à l'œuvre dans ces paragraphes, c'est l'extension de la mission de Jésus. Et ce qui est à l'œuvre dans ces paragraphes, c'est, je dirais, la mission divine de Jésus. C'est-à-dire, Jésus n'est pas là seulement de façon humaine. J'ai trouvé mon public, bon, ben, c'est bon, je reste avec lui. Voilà, j'ai trouvé à Capharnaüm, je me sens bien, les gens m'aiment bien, les gens m'apprécient, les gens me reconnaissent comme le Christ. Bon, avant que ça tourne au vinaigre ailleurs, arrêtons-nous là, et puis gardons ce contact avec les gens de Capharnaüm. C'est ce que un prédicateur, je dirais, purement humain, pourrait se dire. Mais le Christ, justement, dit à Saint-Pierre, mais ce n'est pas sur ce mode humain qu'on va vivre la mission. C'est pas seulement on trouve un endroit où on est bien accepté, bien estimé, et ensuite on s'y fixe, il se passe quoi. Et même voilà, aux gens de Capharnaüm, ça opère un déchirement. Il leur dit, ben non, je ne vais pas rester avec vous. Je reviendrai, mais je vais ailleurs. Donc je dirais, voilà, c'est pas vécu sur un mode humain d'un attachement entre des disciples et un prophète. Et voilà, les disciples seraient contents que le prophète serait content de rester avec ses disciples, tout se passe bien, et puis voilà, on vit ce petit bonheur dans son coin. Le fait que le Christ aille prier le Père, justement, montre qu'il vit ça sous un mode divin. Ce qui le guide, c'est d'abord faire la volonté du Père, et non pas seulement contenter les gens de Capharnaüm, et non pas seulement trouver un petit nid douillet où il serait bien accueilli et bien aimé. Donc là, il y a un détachement à faire du côté des gens de Capharnaüm, il y a un détachement à faire du côté des disciples, qui vont suivre le Christ ailleurs, il y a même un détachement côté de la nature humaine de Jésus, qui s'est sans doute lié à des personnes de Capharnaüm. Jésus n'est pas un robot, donc il s'est sans doute lié, voilà, à la belle-mère de Simon, à d'autres personnes. Ben, il y a un détachement à opérer parce qu'il vit cette mission sous un mode divin et pas sous un mode juste humain. Ce qui compte, c'est d'abord faire la volonté du Père. Ce qui compte, c'est d'avoir ce feu qui brûle dans son cœur d'annoncer au monde entier l'évangile. Et c'est ça qui va être fondateur. Et c'est ça qui est vraiment à l'œuvre, je pense, dans ces deux paragraphes. Et si on veut essayer de trouver des petits rapports avec l'Ancien Testament, on peut se dire que placer comme ça au début de son évangile, le soir, le matin, le soir venu, le lendemain à l'aube, mais peut-être pas innocent de la part de saint Marc, c'est peut-être un petit clin d'œil discret vers le début de la Genèse, il eut un soir, il eut un matin, premier jour, deuxième jour, etc. D'ailleurs, c'est aussi un clin d'œil pour montrer que le Christ est dans une œuvre de recréation. De même que Dieu a créé avec cette alternance de soir et de matin, et bien là, le Christ vient nous recréer, c'est-à-dire vient nous redonner une nouvelle vie, une nouvelle dignité. Donc ça va dans le sens de ce qu'on disait à l'instant, c'est-à-dire que c'est une œuvre divine que cette mission de salut, comme c'était une œuvre divine que la création, c'est pas seulement une œuvre humaine. Et je dirais, voilà, évidemment, c'est très riche aussi d'enseignements pour nous, à travers cette primauté de la prière qu'on peut avoir chaque jour, avant même de se lancer dans l'action de notre journée. C'est un riche d'enseignement pour nous sur les rapports que nous avons avec les autres. Est-ce que je vis tous mes rapports de façon juste humaine? C'est pas condamnable, hein, c'est... Mais est-ce que je vis tous mes rapports de façon humaine, avec ce que les autres m'apportent, ce que je leur apporte, etc. Ou est-ce que je vis mes rapports sous un mode divin, en allant aussi vers des personnes vers lesquelles, humainement, je n'irai peut-être pas d'emblée, en allant vers des personnes qui, peut-être, à vue humaine, ne m'apporteront rien, mais à qui j'ai aussi à apporter un témoignage, à qui j'ai apporté cette foi du Christ, à qui j'ai apporté un service, à qui j'ai apporté une joie. Est-ce que là, je fais de la volonté du Père le premier moteur de mon action, ou est-ce que je fais de ma volonté, de mon estimation des choses, de ma convenance, le moteur de mon action? Je pense qu'on a tous à se convertir dans ce domaine-là, parce qu'on est sans doute tous à mettre notre volonté et notre estimation des choses avant la volonté du Père. Et donc le Christ, de ce qu'on est là, c'est un enseignant. Est-ce que vous aviez des questions sur ces passages, sur le désert, sur Capharnaüm, sur l'étendue de la mission à la Galilée? Vous n'êtes pas surpris quand le Christ empêche les démons de parler? Si vous n'êtes pas surpris, tant mieux, mais...
Vous n'êtes pas surpris parce que c'est le début de sa mission.
Oui, donc effectivement, c'est très fort chez saint Marc que le Christ va se révéler petit à petit et que, effectivement, c'est dans la passion et la résurrection que le Christ se révélera pleinement comme étant le Fils de Dieu. Et puis, il ne veut pas que ça vienne des démons. C'est que les démons le disent un peu par provoque aussi.
Et les gens attendaient le Messie à l'époque.
Oui, c'est sûr.
Les juifs pieux.
Oui, attendaient le Messie.
Ils attendaient, donc les juifs pieux l'ont cru assez rapidement. C'est des gens qui vraiment l'attendaient.
C'est sûr que c'est des gens qui l'attendaient, et en même temps, le Christ veut que ça vienne de ses guérisons, de ses enseignements, mais pas de la bouche des démons, parce que d'une part, il ne veut pas que par la bouche mauvaise des démons, même viennent des choses bonnes, et puis surtout, ça pourrait aussi beaucoup perturber les gens, parce que finalement, les gens se diraient, mais si les démons nous annoncent des choses bonnes, où est la vérité, où est le mensonge, finalement, parce que donc, c'est plein de confusion, finalement, si les démons se mettent à annoncer des choses qui sont vraies, justes et bonnes, les gens peuvent se dire, mais alors, à partir de quand le démon me ment-il, etc. Et puis c'est vrai que c'est aussi une provocation du démon pour mettre Jésus dans l'orgueil aussi.
Mais toujours quand il guérit les gens, il dit toujours, n'allez pas le dire partout que je vous ai guéri.
Spécialement chez Saint-Marc, d'ailleurs.
Oui.
C'est
vraiment ce
qu'on appelle le secret messianique, c'est tout spécialement développé par Saint-Marc. Parce qu'effectivement, il y a cette idée que, d'une certaine manière, que le Christ soit fils de Dieu, c'est quelque chose de tellement grand qu'il y a un risque de mal comprendre finalement les choses. Et donc, il faut aussi tempérer un peu les ardeurs pour que ce soit le Christ qui mette le tempo, en fait, à la révélation. C'est lui qui dicte la pédagogie de sa révélation, alors que si ce sont les foules qui commencent à s'enthousiasmer, ben on voit ce que ça donne, c'est-à-dire elles s'enthousiasment, parce qu'effectivement elles attendent le Messie, mais elles attendent un Messie très politique, qui va mettre Israël au sommet des nations, chasser l'occupant romain, donc il y a le risque que finalement ça monte comme un soufflet, et puis voyant que Christ est un Messie doux et humble, qui n'est pas là pour prendre la tête de l'armée d'Israël, ça retombe d'autant plus...
Il y a aussi des gens qui venaient parce qu'il y avait des guérisons, un petit peu comme le spectacle, voir. Il y avait des sincères et des autres. Hein.
Oui.
Des gens qui venaient voir parce qu'il a fait tellement de guérisons, il a trouvé beaucoup de personnes, il y a ça aussi qui a attiré les foules.
Effectivement, il y a ce malentendu que le Christ veut dissiper. Ne me suivez pas uniquement pour le bien du corps, ne me suivez pas uniquement parce que j'ai nourrit votre ventre ou guérit votre œil. Suivez-moi surtout parce que je nourris votre âme et que je guéris votre âme. Mais il y a toujours ce malentendu, et même chez nous. Est-ce que vraiment on suit le Christ pour le Christ, ou est-ce qu'on suit le Christ pour les bienfaits qu'il nous donne? Est-ce qu'on suit le Christ parce qu'il est ce parapluie tendu au-dessus de nos vies, dont on espère qu'il va nous éviter les malheurs, les maladies et les désillusions? Je pense qu'on a aussi tous à faire un petit examen de conscience sur les motivations profondes de notre amour du Christ. Comme une femme immensément riche, ouais. Est-ce que je l'aime parce que c'est Brigitte, ou est-ce que je l'aime parce qu'elle est immensément riche? C'est toujours une petite ambiguïté. C'est justement au moment où elle perd toute sa fortune que là, ça me permet de voir si je l'aimais pour elle-même ou pour son compte en banque. Et c'est pour ça que parfois dans les épreuves, notre amour n'en est que plus purifié, parce qu'à un moment, voilà. Si j'ai prié Dieu pour avoir tel travail qui m'attirait énormément et puis qu'au dernier moment la porte me claque dans le nez, ben, je suis obligé de me demander, voilà, depuis un an, est-ce que je prie Dieu pour grandir dans son amitié, ou est-ce que je priais Dieu de façon utilitaire pour avoir ce travail? On peut demander des choses, mais qu'est-ce que je mettais en premier? Eh bien justement, par une transition fine et habile, nous allons prier pour grandir dans l'amitié de Dieu. Donc je vous invite à monter à la chapelle.